Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Cyclotopo. Cyclotopo est le podcast consacré au voyage à vélo. Je suis Claire Guillebeau, la créatrice de ce podcast et je vous emmène avec moi dans mes sacoches à la rencontre des voyageurs et des voyageuses à vélo. Sur quelques jours ou au long cours, en France ou à l'étranger, ils partagent avec nous leurs découvertes, leurs rencontres, leurs galères et leurs anecdotes. Accrochez bien vos sacoches ou votre remorque, nous partons voyager à vélo. Vous souhaitez devenir le sponsor d'un épisode de Cyclotopo ? C'est possible grâce à la plateforme Buy Me a Coffee. Vos dons sur Buy Me a Coffee nous aident à poursuivre l'aventure Cyclotopo et à vous proposer encore plus de voyages à vélo. Grâce à vous et à vos dons, nous pouvons couvrir les frais de diffusion liés à l'hébergeur du podcast et au site d'enregistrement, et rémunérer les auteurs des incroyables musiques que vous entendez dans chaque épisode. Nous nous retrouvons pour ce second épisode consacré au voyage de Marie et de Michael. Avant que nous ne commencions cet épisode, j'ai une petite question pour vous. Savez-vous qui est Esmeralda ? Si cela n'est pas le cas, je vous invite à mettre sur pause et à découvrir le premier épisode sorti ce mardi. Et si vous connaissez l'histoire d'Esmeralda par cœur, de son tapis de sol à sa moustiquaire, alors c'est qu'il est temps de poursuivre le voyage avec Marie et Michael. Ils nous racontent la deuxième partie de leur périple, des collines du Rwanda aux montagnes jurassiennes, en passant tout d'abord par le Cap de Bonne-Espérance. Comment on se dit « Maintenant, je vais aller pédaler au Rwanda ». Quel est le cheminement intérieur ?
Je sais pas qu'est-ce qui nous est arrivé à ce moment-là. À part qu'on a sorti une carte du monde et qu'on a fait un peu pique et collégramme en réfléchissant quand même un peu la moindre de... L'idée, c'était de se dire on veut prendre l'avion quand même le moins possible. Jusqu'à maintenant, ça faisait un an qu'on voyageait et qu'on n'avait pas pris l'avion. Et si on continuait plus loin sur l'est du continent asiatique, donc à l'est de l'Iran, on aurait dû reprendre l'avion régulièrement. Si on continuait autour de Dubaï à vélo, on se retrouvait assez rapidement dans des pays où la condition de la femme est encore plus compliquée, où c'est vraiment difficile de voyager à vélo. Il faisait aussi très chaud. Donc, on a un peu réfléchi où est-ce qu'on pourrait aller sur Terre, où on est assuré de ne pas devoir prendre un avion assez rapidement et où potentiellement il fait un peu moins chaud peut-être éventuellement. Dans quelle partie du monde on se dirige vers l'hiver alors que... Et là, on s'est dit hémisphère sud. On s'est dit pourquoi pas l'Afrique. Et puis les billets d'avion pour le Rwanda étaient pas chers. Donc voilà.
Ça vous a décidé du coup à aller au Rwanda.
Et on s'est retrouvé à aller au Rwanda, pays des mille collines. Ma connaissance géographique étant proche. Du niveau de la mer. Quand j'ai vu la publicité Pays des mille collines, je me suis dit, ils ont un bon sens de l'humour en Afrique. Je visualisais l'Afrique comme un pays plat. Jusqu'à ce que l'avion s'approche gentiment du Rwanda et que je regarde par le hublot de l'avion et que je me dise, ah, mais en fait, on dirait que c'était pas une blague.
Et justement, est-ce que vous pouvez nous embarquer avec vous dans votre arrivée au Rwanda ? Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Ça doit faire quand même, là pour le coup, un petit choc culturel de passer de l'Iran, Dubaï au Rwanda.
Déjà, la première chose moi qui m'a frappé quand on était déjà, comme Marie disait, en arrivant en avion au Rwanda, enfin à Kigali sur l'aéroport, c'est que c'était toute la verdure qu'il y avait, donc c'est un pays tropical. Mais ça, moi non plus, je ne l'avais pas vraiment conscientisé. J'avais une fois été en Afrique, au Burkina Faso, puis du coup, j'avais une image plutôt aride de l'Afrique. Et là, on est arrivé, donc on est passé après 6 mois en Turquie, en Iran, dans des régions plutôt globalement arides, d'atterrir au milieu de cet îlot de verdure. En plus, on arrivait pendant la saison des pluies et il pleuvait le jour où on a atterri. C'est une des rares fois qu'il a plu pendant toute la saison des pluies, d'ailleurs. Donc, ce côté-là était assez surprenant des paysans. Et je pense qu'aussi, après, au niveau culturel, c'était un grand choc parce que jusqu'au Rwanda, on a toujours été de pays limitrophe en pays limitrophe. Donc, l'acclimatation se faisait de manière plus ou moins continue et crescendo. Et puis, on est parti d'une culture orientale où le voyageur est roi, où il reçoit tout, où on se mettrait en quatre pour lui donner, pour qu'il ne manque de rien, au Rwanda, qui est un pays à l'histoire assez mouvementée et où il y a énormément d'ONG qui sont présentes et qui injectent beaucoup de moyens dans ce pays. Et là-bas, l'homme blanc est plutôt perçu comme étant quelqu'un qui leur amène quelque chose. Donc, on s'est trouvé dans une culture où, du coup, on était beaucoup sollicité et ça a été un peu difficile au début de s'acclimater à ce changement de paradigme.
Mmh. Ouais, c'est vraiment dur. C'est aussi un des pays les plus densément peuplés au monde, chose qu'on nous avait dit un peu comme ça en passant. Et ce qui rend le bivouac presque impossible, il y a des gens partout. Et la notion... on a été confronté à la notion de la distance, de l'intimité. C'est pas du tout la même. On se retrouve vraiment dans une nouvelle culture où à 6 heures du matin, un local, s'il a envie de venir regarder dans la tente et de nous dire good morning, il va le faire. Et voilà. Et ce sera aucun problème pour lui. C'est nous qui devons nous adapter. C'est nous qui arrivons dans le pays. Mais je pense que ça nous a demandé beaucoup d'énergie, d'adaptation. C'était vraiment assez intense. Ces premiers jours, semaines sur le continent africain, ça a été pour moi un vrai challenge.
Beaucoup de changements d'un coup, je suppose, et beaucoup de réadaptation à faire d'un coup, alors qu'avant, comme vous nous disiez, vous passiez de frontière en frontière, donc c'était certes, il y a des petits changements à chaque fois, mais ça reste une continuité. Que là, c'est comme si vous étiez catapulté au milieu d'une nouvelle culture et autres.
C'est là qu'on s'est dit l'avion, c'est vraiment impressionnant l'effet que ça fait. Ça nous porte d'un point A à un point B sans nous préparer à cette transition parce qu'il ne se passe rien dans le voyage en avion, en fait. C'était vraiment assez dur.
Et est-ce que vous pouvez nous raconter la suite de ce voyage en Afrique après au Rwanda? Où avez-vous été?
Donc, quand on a atterri au Rwanda, on est d'abord resté quelques jours à Kigali chez un couple expatrié au Rwanda qui nous ont accueillis et qui ont essayé de nous préparer à la culture rwandaise, mais une fois qu'on est parti à vélo, on s'est rendu compte que non, enfin, on n'avait pas encore vraiment été immergé. Donc, on a fait une boucle dans le nord du Rwanda, plus ou moins, qui est un très très beau pays, je tiens quand même à le souligner. On a parlé un peu des difficultés que nous avons vécues au niveau de notre adaptation, mais c'est un pays avec des paysages vraiment magnifiques.
C'est incroyable.
Et une richesse aussi, le Rwanda aussi pour nous ça a été une richesse au niveau culinaire, pas forcément à cause de la cuisine, mais surtout à cause du fait que c'est un pays tropical. On peut acheter des avocats, des mangues, des ananas, des fruits de la passion, des fruits qu'on ne sait pas ce que c'est. Enfin voilà, donc c'était de nouveau génial de pouvoir...
On a tout goûté ce qui était possible de goûter sur notre route, je pense.
Et du coup, après le Rwanda, on est allé en Tanzanie, où on a aussi passé presque 2 mois.
Plus
par cœur, mais on avait un grand zigzag dans la Tanzanie. On est allé au nord, dans la région des grands parcs nationaux, sans entrer dans les parcs, parce qu'à vélo, c'est interdit. De toute façon, ils jugent que c'est trop dangereux pour nous par rapport à tous les animaux sauvages. Mais on a pu longer certains parcs et quand même voir toutes sortes d'animaux, des zèbres, des gnous, quelques girafes. Et je pourrais pas tout citer, mais voilà. Puis après, depuis là, on est descendu jusqu'à la plus grande ville du pays, Dar es Salaam, où on est allé faire une petite pause vacances à Zanzibar. Et aussi, Marie, en route, a eu une petite mésaventure sur une route qui était plus vraiment une route, qui était devenue un sentier étroit bordé de buissons. Il y a un buisson qui lui a blessé la cornée, donc on a été un peu forcé de prendre un bus pour aller plus vite à Dar es Salaam pour trouver un ophtalmologue digne de ce nom.
Un des seuls bus de notre voyage, d'ailleurs.
Un des rares bus du voyage.
On a quand même fait le tour du Kilimandjaro à vélo.
Oui. Et après, ben, depuis la Tanzanie, depuis Zanzibar, en gros, une fois que l'œil de Marie était suffisamment remis pour qu'on puisse reprendre la route, on a coupé plus ou moins en ligne droite jusqu'à la frontière zambienne.
Bon, il y a pire comme endroit pour se reposer que Zanzibar. Hein. Précisons quand même que j'ai choisi un chouette endroit pour me faire une lésion de la cornée.
Vous préférez pédaler, si j'ai bien compris.
Ouais. On s'est, comme tu l'auras compris, en 21 mois, on ne s'est jamais arrêté plus qu'une ou deux semaines. Et puis, ça ne nous est pas arrivé souvent de nous arrêter aussi longtemps, vraiment très peu souvent.
Ok. Et vous n'avez du coup pas ressenti cette lassitude du voyage pendant ces 22 mois?
Ben, je pense que si on avait vraiment été lassé, on serait rentré. On n'a jamais eu le besoin de s'arrêter, on n'a jamais eu le besoin de se poser un peu quelque part. On avait toujours cette flamme, en fait, d'aller rouler puis d'aller rencontrer des gens. On a eu peut-être, c'est pas une lassitude, mais à un moment donné, à force de rencontrer des gens, ça devenait difficile de dire adieu le matin. Parce qu'on sait très pertinemment que ces gens, on les reverra sûrement jamais de notre vie. Et on a partagé des moments exceptionnels. Et puis, il y a des fois, on avait le cœur un peu lourd de se dire que cette rencontre unique, ben, elle reste unique. Et puis, c'est merveilleux, ça reste gravé dans nos cœurs, mais le moment des adieux le matin, à un moment donné, ça c'était devenu un peu plus difficile. Et puis on avait fait un peu une ou deux semaines où on se sentait moins ouvert à rencontrer des gens, et puis naturellement on a rencontré un peu moins de gens pendant une ou deux semaines. Et puis après c'était de nouveau bon, mais c'était un peu, c'est pas toujours facile de passer de moments de complicité intense comme ça ne nous arrive pas dans notre vie de sédentaire, et de passer de ça à on se dit adieu, c'est même pas au revoir, on se dit adieu puis on se reverra plus, quoi. C'est des ascenseurs émotionnels qui prennent beaucoup de ressources quand même.
Sur du coup plusieurs dizaines de mois de voyage, ça fait beaucoup beaucoup de rencontres.
Ouais, ça fait beaucoup d'adieux, quoi.
Et beaucoup d'adieux aussi.
C'est, si on veut le voir sous cet angle-là, quoi.
Du coup, vous nous parliez de des locaux qui, enfin, des pays en Afrique qui étaient densément peuplés, comme au Rwanda. Est-ce que vous avez du coup modifié votre façon de voyager, peut-être moins de bivouac, plus d'accueil chez habitants?
Alors au Rwanda, bah par la force des choses, on s'est adapté, vu que, voilà, pour donner un ordre de grandeur, c'est un pays qui fait à peu près les deux tiers de la superficie de la Suisse, mais qui est, il y a un tiers de population en plus que ce qu'il y a en Suisse. Donc c'est vraiment beaucoup plus petit et beaucoup plus habité. Donc là-bas, il faut s'arrêter, aller sonner chez les gens, aller voir à l'église ou à la mosquée, parce qu'il y a beaucoup de villages où il n'y a pas d'infrastructure d'accueil pour les touristes. Ou de temps en temps, quand on en trouvait une, ben on allait quand même camper au bord d'un lac ou faire une nuit d'hôtel. Mais c'est vrai qu'on a bivouaqué, on a bivouaqué deux fois au Rwanda.
Ouais, après
en camping sauvage. En Tanzanie, et à chaque fois, il y a des gens qui nous ont vus, qui nous ont abordés. Après, dès qu'on est en Tanzanie, c'est déjà beaucoup plus facile de nouveau de camper.
Ouais, le camping sauvage est quand même plus facile parce que les étendues sont quand même un peu plus grandes. Et puis, c'est vrai qu'on avait toujours un peu ce réflexe de la mosquée. Forcément, on avait passé presque 6 mois dans des pays majoritairement musulmans. Puis ça, c'était un peu un repère rassurant pour nous quand on voyait une mosquée, je crois. Parfois, de se dire dans cette culture où on connaît rien, la mosquée, ça, on connaît. Et puis, ça avait un peu un aspect rassurant de se dire, de temps en temps, on va se faire une nuit dans une mosquée. Il y a le rythme de l'appel à la prière, on est habitué à ça. C'était un peu un repère qui nous rassure, quelque chose qu'on connaissait dans cet environnement où on ne reconnaissait rien, où on n'avait rien à quoi on pouvait se rattacher, qui nous était connu. De temps en temps, on se disait, ah, mais oui, il y a un appel à la prière, on suit le son, on va à la mosquée, on reprend une bonne habitude. Et puis, de temps en temps, ça nous arrivait. On se dit, ah oui, ça c'est familier, c'est devenu familier finalement.
Et est-ce que, entre les différents pays en Afrique, donc on a parlé du Rwanda, de Tanzanie, après vous êtes allé en Zambie, est-ce que vous avez vu une continuité culturelle en termes de paysage dans tes différents pays, ou il y a vraiment un changement dès qu'on passe la frontière?
Alors, je dirais qu'il y a des changements, mais les changements, ils ne sont pas calés sur les frontières, en fait. C'est comme partout, la frontière, ce n'est pas une ligne qu'on peut vraiment voir. Enfin, c'est rarement le cas, en tout cas. On a le nord... Ouest de la Tanzanie était assez similaire au Rwanda, et après le reste du nord, c'était la région que beaucoup de voyageurs connaissent parce qu'il y a tous les grands parcs et le Kilimanjaro et tout ça, donc plus un coin de safari. Puis après, en descendant au sud de la Tanzanie, on arrive dans des régions beaucoup moins touristiques où ça rejoint déjà gentiment un peu ce qu'on a pu voir en Zambie, qui est pour le coup très peu touristique, excepté la ville de Livingstone. Donc, il y a vraiment des différences finalement en Afrique. Enfin, on est loin du cliché qu'on peut des fois avoir nous ici comme Européens de oui, l'Afrique c'est tout pareil quoi. Mais c'est un cliché que les Africains ont sur l'Europe aussi. Beaucoup d'Africains ne comprennent pas que dans l'Europe il y a beaucoup de pays différents, de langues différentes, de cultures différentes. Donc finalement c'est un peu un cliché réciproque. Et là, d'avoir passé ce temps en Afrique, ça nous a vraiment ouvert les yeux sur toutes ces différences et ces cultures, mais qui se cantonnent pas aux frontières. C'est vraiment les ethnies, les populations, elles vivent dans leur secteur indépendamment des frontières finalement.
Ouais, en Zambie, ils ont, je crois, 11 langues nationales, si je me rappelle bien. Et elles sont pas vraiment réparties géographiquement. Ça peut changer d'un village à l'autre, et puis sur 4 villages, il y a 4 langues différentes, et puis le cinquième, il aura un mélange de deux langues nationales qui sera son propre langage. Donc, il y a vraiment des choses qui nous sont vraiment inconnues. En Suisse, on a 4 langues nationales. On trouve que c'est déjà beaucoup. Et elles sont vraiment réparties de manière géographique assez fixe. Et en fait, c'est bête, mais c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point on s'attendait à ce qu'il y a, s'il y a beaucoup de langues nationales, qu'on sache où parler quelle langue. Et ils nous ont regardé et eux n'ont pas compris pourquoi nous on pensait ça. Et c'est d'où toute l'importance de vraiment arriver à communiquer pour comprendre l'autre. Et on s'est dit, ah ben oui, parce que chez vous, ça dépend des personnes et pas de l'endroit où elles se trouvent. C'est vraiment les personnes qui prennent leur langage avec eux là où ils vont. Donc, plus il y a de mouvements de population, plus c'est un mélange de ces 11 langues qui en donne finalement encore beaucoup plus dans la réalité. Et c'est vraiment magique de découvrir ça et d'entendre tous ces langages qui, pour nous, se ressemblent absolument pas. Et heureusement, l'anglais est une langue extrêmement parlée en Zambie. Ça nous a vraiment aidé parce qu'on s'en serait pas sorti sans cela. Mais chacun s'est donné énormément de peine d'essayer de nous expliquer jusqu'à ce qu'on ait vraiment, je pense qu'on a effleuré la pointe de l'iceberg de la compréhension de comment ça peut fonctionner là-bas. On n'est vraiment pas resté du tout assez longtemps pour arriver à comprendre ce monde qu'on découvrait finalement complètement, quoi.
Changement de sujet total, d'un point de vue complètement logistique pour les ravitaillements en nourriture et bons petits plats dont tu nous parlais, Michael, tout à l'heure, et ravitaillements en eau, est-ce que c'était plutôt simple ou un peu plus compliqué?
Dans l'ensemble, ça a été plus simple que ce que je pensais que ça le serait en Afrique. Je m'attendais à de nouveau, hein, gros cliché, l'Afrique désertique, il n'y a rien à manger, les villages, ils sont séparés de plusieurs centaines de kilomètres. Alors, il y a des endroits en Afrique où c'est vrai, mais dans la plupart des endroits d'Afrique où on est passé, on arrivait à acheter un petit peu à manger tous les 2-3 jours, quelques légumes frais ou un bout de pain. Et après, ben, on s'est adapté, on transportait un peu plus de riz et de pâtes dans nos stocks d'aliments secs. On a augmenté nos réserves d'eau quand même pour l'Afrique. Et on s'est équipé aussi d'une lampe UV qui permet, si l'eau qu'on pompe elle est claire, avec la lampe UV, ça suffit à tuer les éventuels microbes, virus et autres germes qu'il pourrait y avoir dedans. Donc au début, on utilisait beaucoup de cette lampe, et au bout d'un moment, après on n'utilisait même plus finalement. Mais on s'adapte assez facilement à l'Afrique, finalement, j'ai trouvé.
À un moment donné, on est parti du principe que si les locaux la buvaient sans la filtrer, bah que nous aussi on allait le faire, quoi. Il n'y avait pas de raison que si on essaie de s'adapter et de comprendre leur culture, pas de raison que l'estomac nous résiste. Et je pense que maintenant qu'on est rentré, on peut le dire, on n'a jamais eu un seul souci gastrique pendant tout notre voyage. On s'est aussi beaucoup rendu compte que de choisir les aliments que tu veux manger par conviction, c'est quand même quelque chose un peu de luxueux de pouvoir choisir ce que tu veux manger. Ça veut dire que tu as le choix entre plusieurs aliments, ce qui en Afrique était de manière générale dans les pays qu'on a traversés, aux endroits où on est passé, on n'avait pas vraiment du choix. On a mangé beaucoup de tomates parce que à partir de la Zambie, c'est fini la zone tropicale où il y a des fruits à gogo. C'est quand même Botswana, on est quand même sur des régions qui sont de nouveau très désertiques, très arides, où la diversité, c'est des tomates rouges ou des tomates rouges en pile de 5 ou en pile de 3. Et puis il y a 10 dames qui vendent des piles de 5 ou des piles de 3 de tomates, quoi. Et puis voilà. Mais c'est bon la tomate.
Est-ce que justement vous pouvez nous décrire un petit peu, nous immerger avec vous au Botswana? Ça ressemble à quoi de voyager avec au Botswana?
Ça ressemble à un safari.
Je pense que c'est le pays qui se rapproche le plus du cliché qu'on pouvait avoir de l'Afrique avant d'aller en Afrique. Il y a très peu d'habitants, il y a des grandes distances, des grandes lignes droites, c'est ultra plat, il y a des animaux sauvages un peu partout.
Ouais, c'est le seul pays où tu peux te réveiller à 2h du matin en disant que tu as entendu un bruit, tu regardes par la fenêtre de ta tente, par la moustiquaire, tu vois un gros truc gris. Et j'ai dit, c'est quoi ça? À un mètre de la tente se trouve un éléphant. Et il a fait tomber quelque chose. Et tu le regardes dans les yeux, il te regarde dans les yeux, tu le regardes dans les yeux, il te regarde dans les yeux et tu te dis, va-t-il marcher sur la tente? Et là, il se dit, non, je vais boire. Et il part et tu te dis, bon, ben tant mieux parce qu'on n'aurait pas résisté à la taille de sa patte, à mon avis.
Pauvre Esmeralda.
Ouais, Esmeralda, elle a eu chaud. On s'est fait beaucoup manger le fond de tente par les termites, d'ailleurs, gentiment en Zambie. Mais le Botswana, c'est vraiment le bord de la route, juste regarder ce qui nous entoure. On a croisé assez peu de locaux, parce qu'ils sont peu nombreux en même temps. Donc ça, c'était un peu la logique, mais on a vu énormément d'animaux et c'est un côté très magique et surréaliste d'être en train de rouler, de pouvoir faire 130 km et 7 mètres de dénivelé. C'est quand même quelque chose qui est unique. En tout cas, quand tu habites en Suisse, c'est vraiment fou. Et tu roules, si tu as le vent dans le dos en plus, c'est juste... C'est feel free et regarde autour de toi la nature qui t'entoure, profite de ces animaux, profite de ces arbres, ces beaux arbres africains qui, on a l'impression d'être dans le Roi Lion, hein, puis on a envie de chanter Hakuna Matata et on le fait. C'est vraiment des trucs exceptionnels, quoi. Et ce calme, ce silence, où juste il y a la nature qui t'entoure, c'est vraiment, je pense, les bivouacs les plus impressionnants qu'on a fait, en tout cas dans la région, dans le continent africain. C'était vraiment des bivouacs impressionnants où on faisait des feux en se disant qu'il faut éloigner les lions au cas où on nous a dit qu'il pouvait en avoir. On va faire, le feu de camp, c'est quand même une tradition qu'on aime beaucoup. Et là, elle revêt un aspect encore plus traditionnel et un aspect utile qui est vraiment, vraiment génial, quoi.
Vous me donnez envie de partir au Botswana, là, maintenant, tout de suite. Hein.
Mais on recommande. Enfin, nous, on a adoré. On avait entendu pas mal de... On avait discuté avec pas mal de gens qui nous ont dit « Ouais, c'est plat, c'est ennuyeux. Nous, on est partis sur la Namibie. Nous, en tout cas, on s'est vraiment plu. On a vraiment aimé ce calme. Et puis, cette monotonie, on ne l'a pas ressenti du tout. C'est sûr que c'est plat, mais ça veut dire que tu as de l'énergie que tu peux consacrer à vraiment t'imprégner de l'énergie qui se dégage des paysages dans lesquels tu passes. Et ça, moi, j'ai été hyper sensible à ça.
Et du coup, c'était l'avant-dernier pays de votre traversée africaine, juste avant d'arriver en Afrique du Sud. Est-ce que, justement, pour vous, l'Afrique du Sud, c'était une fin en soi? Est-ce que vous saviez que c'était la fin de votre aventure en Afrique, ou vous aviez envisagé d'autres itinéraires, je ne sais pas, remonter par la Namibie, par exemple, ou autre? Ou est-ce que c'était vraiment la fin pour vous de votre voyage en Afrique?
Il y a eu une phase où on hésitait à remonter éventuellement, justement, en Namibie, Angola et compagnie, en disant on pourrait remonter toute l'Afrique et rentrer en Europe à vélo. Mais en fait, ça s'est assez vite estompé parce que, comme Marie l'a dit, elle a déjà eu... il faisait chaud en Afrique, mais Marie aussi, entre-temps, avait eu un entretien d'embauche et on avait gentiment une date de retour qui commençait quand même à se dessiner à partir du Botswana ou de la Zambie.
Oui,
donc puis... là, on avait plus ou moins décidé que l'Afrique du Sud, ce serait... Quand on est entré en Afrique du Sud, on savait, on avait déjà même réservé le billet, non, on n'avait pas réservé le billet
d'avion. Non, il y avait aussi l'argument qu'on était en Afrique du Sud gentiment à la fin de l'hiver africain, donc si on remontait le continent, ça veut dire qu'on allait avoir de l'été africain. Et moi, j'avais assez donné de ma personne dans la canicule grecque. Donc pour moi c'était pas une option de vivre c'est pas vraiment une expérience de vie qui m'intéressait de vivre l'été en Afrique. Donc pour moi en tout cas c'était assez clair que à la fin de l'hiver africain, donc à la fin de l'été européen, moi j'aurais envie d'aller ailleurs, quoi.
Et comment vous avez du coup vécu cette traversée de l'Afrique? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce pays? L'Afrique du Sud, pardon. J'ai pas précisé.
C'était une transition intéressante. C'était vraiment très différent des autres pays d'Afrique où on était allé. C'était vraiment une grosse découverte avec un pays qui a une histoire qui est pas facile. Et qui a une situation politique assez tendue par endroit. C'est, je pense, le pays où on a été le plus en souci pour notre sécurité, à vraiment réfléchir les itinéraires et puis pour choisir les bonnes routes à prendre pour pas se mettre en danger. Et puis, en même temps, c'est des familles qui nous ont accueillis et qui nous ont organisé des séjours de famille en famille. On a fait dans la famille, donnez-moi la grand-mère, donnez-moi la sœur, donnez-moi le petit-fils. On est passé par le jeu des sept familles, c'était incroyable. Et des gens qui nous ont fait découvrir avec passion leur région, tout en ayant conscience de ce contexte difficile dont ils nous ont quand même beaucoup parlé. Puis en même temps de dire ouais, mais ils ont des ressources, ils ont des vignobles, on va passer pour des alcooliques. Ils ont vraiment toute une culture qui est aussi incroyable à découvrir. des distances, des domaines agricoles qui dépassent tout entendement. On a beaucoup rigolé, nous qui venons de notre minuscule pays de la Suisse, qui débarquons dans le gigantesque pays d'Afrique du Sud. Forcément, on vient aussi les deux de familles où il y a des agriculteurs dans la famille. Donc, on a des notions de ce que c'est le terrain d'une ferme en Suisse, du nombre d'hectares que ça peut représenter environ, hein. Et on se retrouve face à des chiffres qui sont démentiels quand ils nous annoncent la taille de leur petite ferme. Je mets des gros guillemets là. Et voilà, ils nous offrent de quoi nous héberger, ils nous font à manger, ils nous prennent en voiture pour aller vite nous emmener dans un parc parce qu'il y a un truc incroyable à regarder, et ils sont heureux de nous montrer ça. C'est des montagnes aussi, alors forcément que là on touche de nouveau notre cœur, hein, des grosses montagnes qui sont vraiment, c'est beau la montagne, quoi.
Vous n'êtes pas suisse pour rien.
Non.
Je dirais dans l'Afrique du Sud, il y a quand même le défi, si on peut dire ça comme ça, c'est quand même les résidus de l'apartheid, hein. Faut appeler un chat un chat. C'est que nous, en tant que blancs, on a été très bien reçus, mais principalement par d'autres blancs. Et quand on traversait des régions peuplées, les quartiers habités par les Noirs, souvent, en fait, tout le monde nous mettait en garde là contre. Donc, les habitants blancs d'Afrique du Sud nous disaient « n'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas ». Ça arrivait par la force des choses qu'on y aille quand même, parce que des fois, on n'avait pas le choix. Mais du coup, ça nous a aussi amené dans une situation où on était toujours un peu méfiant et peut-être aussi un peu moins ouvert quand on a pu ou dû traverser quelquefois des townships, alors que dans les régions, je vais dire rurales, dans les petites villes, les townships sont en général, en tout cas ceux qu'on a traversés, les gens nous ont souri, nous ont fait signe. Une fois, on a dû s'arrêter faire des courses, il y a presque la moitié des maisons alentours qui sont venues me proposer de l'eau. Dans le Marie qui était dans le magasin, les gens du coin ont discuté avec elle, donc c'est toujours difficile un peu de démêler le vrai du faux. Mais le problème en Afrique du Sud, c'est qu'il y a vraiment de la criminalité élevée dans certains townships, et que si on ne sait pas où, quand, comment, on est un peu obligé d'être méfiant. Et ça teinte quand même un peu l'expérience là-bas de manière un peu... C'est particulier comme ambiance.
Tu as aussi un peu cet aspect sécurité où tu te dis, est-ce que tu veux vraiment à tout prix aller visiter quelque chose qui sera peut-être mal vécu par la personne que tu vas aller rencontrer? C'est pas le but de notre envie, c'est pas notre vision du voyage non plus. On est là, mais on va pas aller frapper activement à des portes. La rencontre, si elle doit se faire, elle se fera. Puis on n'est pas vraiment les voyageurs à aller provoquer la rencontre. Si elle se fait, c'est qu'elle se donne comme elle est. Et puis on n'a jamais été volontiers toqué à une porte ou bien essayé d'aller rencontrer quelqu'un activement. La rencontre, si elle doit se faire, elle se fera. Et puis elle viendra à nous. Et puis c'est aussi ça un peu qui est magique, quoi.
On va refermer cette parenthèse du coup africaine sur ces belles phrases inspirantes. Donc après plus d'un an passé en dehors d'Europe, vous avez repris un avion pour revenir en Europe et achever votre voyage. Bon, vous avez fait encore quelques petits tours et détours. On va en parler tout de suite. Qu'est-ce que ça fait dans l'autre sens d'être catapulté de l'Afrique du Sud au Portugal, si vous êtes arrivé au Portugal, il me semble.
Ouais, exactement, on est arrivé au Portugal. C'est l'abondance, c'est le choix, c'est aller au supermarché, alors que ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas fait cette activité-là. Et puis se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter, regarde, du thé, il y en a au moins 30 sortes différentes. Je sais même pas quoi prendre. Et avoir envie de goûter tout en se disant, mais ça, je connais pas, mais ça, si je connais, oh, j'ai trop envie de remanger ça, et de se dire qu'on va se faire mal au ventre si on mange vraiment tout ça, quand même le manger, quand même avoir mal au ventre, mais être quand même heureux de l'avoir fait.
L'Afrique du Sud nous avait quand même un peu préparé à l'Europe, dans le sens où je pense que c'est un des pays les plus, qui a le mode de vie le plus proche de ce qu'on a nous en Afrique. Il y a quand même aussi des supermarchés, mais après le choix de produits n'est pas le même qu'ici, c'est pas les mêmes marques qu'ici, c'est pas toujours les mêmes saveurs qu'ici. Donc au niveau de l'abondance, on avait eu un petit palier en Afrique du Sud quand même, mais ouais, arrivé en Europe, c'est retrouver tous ces produits qu'on a quittés, tous ces repères, des marques, juste passer devant un magasin et dire « Ah tiens, j'ai déjà vu cette enseigne », parce qu'au Portugal, il y a beaucoup de magasins d'enseignes françaises, Auchan, Casino et compagnie. Donc on retrouve des choses qu'on connaît.
On roule et puis il y a des choses qui nous disent quelque chose autour de nous. Et ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. De se dire, ah ouais, justement, cette marque-là, je connais pas, mais j'ai déjà entendu, j'ai déjà vu ce truc-là. Ça nous a fait bizarre et plaisir à la fois de se dire, on peut de nouveau remanger des choses variées, des spécialités qui ont des goûts différents, parce que, on va dire que quand on passe 8 mois dans le sud-est de l'Afrique, comme on l'a dit avant, les frontières sont pas très nettes, c'est plutôt des territoires. Et puis, on va dire que frire des trucs dans l'huile, c'est assez tendance dans la région qu'on a traversée. Donc tout à coup, on retrouve des trucs qui sont, par exemple, cuits au four, et on se dit, ah, ouais, grave, ça existe. On a les pastas de nata, et puis là, tu manges un truc avec de la bonne crème dessus. Un peu grillé, t'es refait pour 6 mois.
Avoir la sensation de revenir à la maison un petit peu.
Ouais, ben on sent vraiment que cette proximité avec de nouveau des plats aussi qu'on connaît déjà un petit peu mieux, des choses qui nous sont un peu plus accessibles, qui sont quand on a quelque chose dans l'assiette. On sait un peu quel goût ça va avoir. Et puis ça change déjà beaucoup de choses aussi. On se réjouit parfois de manger quelque chose. Aller manger une pizza, par exemple, qui aura la forme et le goût d'une pizza. Ce qui sont deux critères quand même assez cruciaux. On réapprécie des bonheurs qui sont peut-être simples, mais on les apprécie à un niveau qui dépasse tout entendement, quoi.
Je pense qu'il y avait aussi le fait pour nous de revenir en Europe. Finalement, entre le Moyen-Orient et l'Afrique, on a passé à peu près une année hors de l'Europe. Donc, il y a aussi eu le fait qu'il y a beaucoup de choses justement qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas eues et qu'on a retrouvées, redécouvertes. Vraiment de redécouvrir finalement et de quand c'est des choses qu'on a dans notre vie quotidienne, on oublie finalement un peu la chance qu'on a, le goût que ça a, la valeur que ça a. Et quand on les retrouve après une année où c'est des choses qu'on n'a pas eues, qu'on n'a pas vues, et qu'en plus, en voyage, on a traversé certaines régions qui vivent dans une relative précarité, je pense que les choses étaient pour nous tout de suite plus précieuses, plus... On mange plus forcément, en tout cas les premiers jours, premières semaines, on mange pas les choses tout à fait la même, pareil qu'après. On a toujours dans un petit coin de la tête. En tout cas, moi j'avais ça, ce côté de la chance qu'on a d'avoir ça finalement.
Je pense que ça nous a même pas vraiment quitté encore aujourd'hui de savourer la chance d'un bon petit plat qui nous fait vraiment plaisir, où on se dit oh, quelle chance on a.
Mais ça donne envie de partir pour vivre ça après, du coup.
C'est plutôt chouette, alors.
Et du coup, avant de rentrer à la maison, vous avez quand même fait un petit tour de l'Europe de l'Ouest. Donc, vous avez été au plus court en passant par le Portugal, l'Espagne, l'Andorre, la France, la Belgique, puis encore la France et la Suisse. Est-ce que pour vous, c'était un peu un sas de décompression avant le retour à la maison, du coup, ce mini tour d'Europe?
C'était un peu l'occasion, c'est là que on s'est vraiment dit que en fait on allait vraiment rentrer. Et puis c'est vrai que comme tu l'as remarqué avec un petit sourire, on a fait un petit détour par la Belgique. Pour l'anecdote, on était à peu près à 300 km de la maison. Et puis on s'est regardé et puis on s'est dit c'est pas possible qu'on rentre maintenant en fait. C'est pas le moment. Et puis là on s'est dit Mickaël, il a son anniversaire bientôt. Est-ce qu'on n'irait pas se boire une bière en Belgique? Et puis on était dans le sud de la France et puis on est monté en ligne droite au nord de la France pour aller boire une bière à Vest-la-Terren pour son anniversaire. On est arrivé le jour de son anniversaire. Timing improbable, on se l'avoue. Et c'était vraiment, c'était un peu ça de décompression, mais aussi de se dire ça va vraiment arriver. Ça veut dire que ce qu'on vit là, ça va plus être notre quotidien pendant on sait pas combien de temps, mais ce chapitre-là va presque avoir une fin. Et puis, je pense qu'on n'ose même pas trop encore prononcer ce mot-là aujourd'hui parce qu'on n'a pas l'impression d'être encore vraiment, vraiment là. La tête, elle est encore à avoir des réflexes de voyage dans notre quotidien, finalement.
Et donc, vous êtes rentré pour les fêtes de fin d'année 2022, donc il y a un petit peu plus de 5 mois, quelque chose comme ça, 4-5 mois, à l'heure où on enregistre cet épisode. Comment se sont passés vos derniers jours de voyage, votre arrivée chez vous?
Alors, ben, les derniers jours de voyage, c'était un peu partagé entre excitation de revoir nos familles et forcément aussi un peu de nostalgie, pas de nostalgie, mais de se dire, ah, voilà, ça va être fini ce voyage, on va repasser à autre chose. Puis après, je dirais que le jour même du retour, on a dormi, en fait, le dernier soir, on a dormi assez près de chez les de notre point de destination, donc de notre point d'arrivée chez les parents de Marie. On a dormi à 12 km sauf erreur. C'était vraiment un prétexte pour dire non, on va quand même pas rentrer tout de suite, et on avait averti et quand même dit à quelques amis qu'on rentrerait ce jour-là et que s'ils voulaient venir passer nous dire bonjour, ils pourraient. Puis on avait dit ça en disant qu'il y aurait nos parents, quelques amis, et voilà. Mais en fait, derrière, je crois qu'il y a un peu nos parents qui ont manigancé sans doute quelque chose. Puis le jour même, on est arrivé, il y a déjà un peu de la famille de Marie qui est montée à vélo à notre rencontre. Donc, il y a déjà 3 personnes qui sont venues à notre rencontre à vélo sur ces derniers kilomètres. Et arrivé chez les parents de Marie, il y avait une 50aine de personnes. Donc, ça a vraiment été déjà très touchant de voir tous ces gens qui se déplacent pour venir nous dire bonjour, finalement. C'était quand même très, très beau, mais c'était aussi très... Voilà, on plonge dedans, quoi. On passe de notre voyage à boum, on est entouré de gens qui, donc c'était
intense.
Très intense, très beau, très très émouvant, mais ouais, c'était.
Ouais, et c'est vrai que ça avait un côté un peu surréel de se dire, mais tous ces gens là, enfin, on est juste parti faire un tour à vélo. Pourquoi ils sont là, en fait? C'était un peu de se rendre compte qu'on était complètement dans notre bulle. Je sais pas si on peut encore parler de ça au passé, mais de se dire, ça les intéresse vraiment? Toutes ces questions, ils ont vraiment un intérêt pour la réponse, ou bien c'est juste pour la forme qu'ils ont envie de demander? Et puis, c'était un peu impressionnant. Et puis, vraiment de juste serrer les gens contre son cœur et puis de se dire, c'est vraiment vrai, quoi. Ils sont là, ils sont dans nos bras maintenant, quoi.
Je comprends. Et aujourd'hui, plusieurs mois après votre retour, comment vous sentez-vous?
Bon, je pense que c'était le premier mois, ça a été assez difficile. Il y avait toutes ces fêtes de fin d'année où on a vraiment rencontré beaucoup de gens qui finalement avaient envie de nous revoir. Et puis, c'était un peu impoli de dire que nous, on n'avait pas très envie. Puis, au fond de nous, on avait envie. C'est juste que c'était parfois vraiment dur de passer autant de temps avec autant de gens. mais on est très content de l'avoir fait. Ça a permis de voir beaucoup de monde. Et puis après, les choses se sont un peu calmées. Moi, j'étais hyper heureuse de retrouver le chemin de l'hôpital quand même. Ça m'a vraiment fait hyper du bien. C'est là que je me suis rendu compte que mon travail m'avait vraiment manqué. Et puis, c'est vrai que je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est encore arrivé. On a encore un logement transitoire. On n'a pas encore déballé aucun carton. Mais en fait, on est heureux. Et puis, je crois que c'est ce qui compte. Et puis, on a suivi notre instinct et nos inspirations qu'on avait jusqu'au bout. Et puis, on continue de les suivre dans notre quotidien. Et puis, ça, je pense que c'est essentiel pour se sentir... pour se sentir à l'aise dans la vie qu'on vit.
Je crois qu'on a fait pas le tour du monde, mais on a beaucoup voyagé avec vous dans cet épisode, de l'Europe jusqu'au Moyen-Orient, jusqu'en Afrique, et puis retour en Europe. Pour mettre des images sur ces mots, on peut retrouver du coup votre compte Instagram Cyclobirds ainsi que votre blog du même nom. Et surtout, j'invite tous les auditeurs à aller découvrir le reportage que TV5 a fait sur vous. Voilà, on vous voit vous et Esmeralda dans la brousse au début.
Si vous voulez rencontrer Esmeralda, qui a failli se faire écraser par un éléphant.
C'est le moment. Et on voit aussi vos deux magnifiques vélos, votre setup, et ça fait plaisir de mettre des images sur des mots. Alors juste peut-être les deux dernières questions pour conclure cet épisode, parce qu'il faut bien une fin quand même. Est-ce que vous avez des idées de voyage? Est-ce que vous avez des envies de repartir, pas forcément pour un grand voyage, mais pour quelques jours ou quelques semaines prochainement?
Oui. Les envies de voyage, en fait, plus on voyage, plus on se rend compte que, ou en tout cas pour nous, plus on voyage, plus on a envie de voyager, je crois, en fait. Parce qu'on se rend compte de toute la diversité et de l'immensité du monde. Alors, on a des rêves de grands voyages. Qui sait, peut-être qu'un jour ou l'autre, on repartira pour un grand voyage, pas tout de suite. On a dans un petit coin de la tête, je sais pas si j'ose le dire. Enfin, si j'ose le dire.
Nous, de toute façon, comme tu sais, nous, on a des idées, on a des plans, mais jamais ne se déroule rien comme on pense. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut. De toute façon, on sait très bien qu'on fera sûrement toute autre chose ou qu'on fera peut-être exactement ça et on n'en sait rien et ça sera très bien.
Je dirais que Alaska, Patagonia, c'est quelque chose qui nous attire un peu.
Ça nous dérangerait pas de le faire, on va dire.
Ça pourrait être un joli défi, mais pas pour tout de suite. Il faut d'abord un peu retravailler et passer un peu de temps en Suisse dans notre milieu social et choyer un peu nos familles, nos amis, profiter de ce temps-là avec eux. Mais on a des envies et des rêves de grands voyages. Et sinon, en plus court voyage.
On est déjà reparti 4 jours autour de chez nous. On est déjà reparti 2-3 fois juste pour des week-ends.
Puis on va très certainement partir 3 semaines en fin d'été, début d'automne à vélo, mais on ne sait pas encore où. Peut-être en France, peut-être.
Peut-être pas.
Probablement en Europe, parce qu'on essaye d'éviter de prendre l'avion pour des courts séjours. Mais on verra bien.
Voilà ce que nos roues nous réservent. Nos vélos ont un fort caractère.
Oui, et la toute dernière question, la question rituelle pour conclure cet épisode, c'est une question un peu plus générale, mais qui peut avoir une réponse courte aussi. Hein. Quel conseil souhaiteriez-vous donner à des personnes qui veulent se lancer dans un premier voyage à vélo?
De s'armer d'un sourire, je pense. C'est un bon départ, je pense, pour voyager à vélo. C'est ça qui permet de garder le moral quand des fois les conditions correspondent pas à nos attentes, ou bien qu'elles sont plus difficiles que ce qu'on pensait. Ça permet de nouer un lien, ça permet de rayonner de sa joie, et puis le sourire, c'est quelque chose de contagieux. Donc ça veut dire, si nous on voyage avec le sourire, ça va forcément attirer le positif. Et puis ça, je pense que c'est si tu veux te lancer dans le voyage à vélo, de de pouvoir expérimenter la joie, de ces bonheurs de la vie, ben, ça remet d'un sourire. C'est un bon point de départ, je pense.
Mon idée à moi, elle serait peut-être un peu moins philosophique ou que Marie. Je suis à peine un peu plus terre à terre, mais je rejoins tout à fait ce qu'a dit Marie. Je dirais aussi de ne pas se mettre la pression, ne pas se dire il me faut tel vélo, tel équipement, ou il faut que je fasse 50 km par jour ou que sais-je. C'est finalement, il n'y a pas de setup parfait, il n'y a pas de mauvais setup. Il faut juste oser partir avec ce qu'on a. On a rencontré des gens qui voyagent avec des vélos d'occasion qui valaient 100 euros. Ça va aussi. Et puis, ben, il faut pas se mettre à la pression. Il faut y aller. Nous, notre premier jour de voyage, on a fait 19 km. Et c'est pas un souci. Il faut pas chercher, il faut pas viser la lune. Il faut juste se faire plaisir.
Nous allons donc partir avec un sourire et ne pas nous mettre la pression pour les futurs épisodes de Cyclotopo. En tout cas, je voulais vous remercier Marie et Mickaël pour vos récits, pour votre retour d'expérience sur ce magnifique voyage et puis pour votre bonne dose de bonne humeur aussi. Et c'était un plaisir de discuter avec vous et de partager avec vous ce moment aujourd'hui. Merci à tous les deux.
Merci à Merci. Toi pour ton invitation, ton temps, ta patience avec les deux énergumènes que nous sommes. Et puis, on a vraiment passé un super moment. Puis, on espère que peut-être ça pourra à peine un peu inspirer quelques personnes ou faire du bien dans des oreilles.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast via la plateforme Buy Me a Coffee. Les dons récoltés permettront de contribuer au développement du podcast pour vous proposer toujours plus de voyages à vélo. Je voulais aussi vous adresser un grand merci pour tous vos nombreux messages que je reçois sur les réseaux sociaux et par mail. Vos petits mots me mettent toujours le sourire jusqu'aux oreilles. Pour poursuivre l'aventure, nous vous donnons aussi rendez-vous sur notre site cyclotopo.fr. Vous pourrez y retrouver les récits de nos voyages et aussi des astuces pour choisir votre équipement pour le voyage à vélo. Si vous avez des questions sur les panneaux solaires, le matériel de réparation ou encore quelle popote choisir pour un premier voyage à vélo, c'est sur Cyclotopo que vous trouverez toutes ces infos. Bon, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures à vélo. Ciao !